Clac.
Il a dit à Pete qu'il avait une course à faire. C'était pas tout à fait exact. Il aurait pu dire qu'il avait à bosser sur un dossier, mais c'est pas tout à fait exact non plus. Quoique ça aurait été plus proche de la vérité. Juste avant de partir pour son rendez-vous avec Pete, il a reçu un coup de fil de Becky Elmington, de la clinique des traumatisés du cerveau. Hodges lui verse une petite somme tous les mois pour qu'elle le tienne au courant de l'évolution de l'état de santé de Brady Hartsfield, le patient qu'il appelle « mon petit gars ». Elle le tient aussi au courant de tous les phénomènes étranges qui surviennent dans le service et lui transmet les dernières rumeurs. Le cerveau rationnel de Hodges soutient que ces rumeurs ne reposent sur rien et que certains phénomènes étranges ont en fait des explications rationnelles. Mais son cerveau est constitué de bien plus que la partie rationnelle en surface. Dans ses profondeurs, en dessous de cette partie rationnelle, s'étend un océan souterrain. Il y en a un dans toutes les têtes, croit-il, où évoluent d'étranges créatures. « Comment va votre fils ? » a-t-il demandé à Becky. « J'espère qu'il n'est pas retombé d'un arbre ces jours-ci. »
« Non, Robbie se porte comme un charme. Vous avez lu le journal d'aujourd'hui, Monsieur Hodges ?»
« Non, je ne l'ai même pas encore sorti du plastique. » En cette nouvelle ère, où l'on a tout au bout des doigts sur Internet, il y a des jours où il ne le sort pas du tout. Le journal reste là, à côté de son lazy boy, tel un enfant abandonné.
« Lisez la section métropolitaine, page 2, et rappelez-moi. »
Il l'a rappelé 5 minutes après. « Mon Dieu, Becky !»
C'est exactement ce que je me suis dit. C'était une chic fille.
« Vous êtes de garde aujourd'hui ?»«
Non. Je monte voir ma sœur dans le nord de l'État. On y passe le week-end. »
Becky s'interrompt une seconde.
« En fait, à mon retour, j'ai dans l'idée de demander mon transfert à l'unité de soins intensifs de l'hôpital général. Il y a un poste qui se libère, et j'avoue que j'en ai un peu marre du docteur Babineau. C'est vrai ce qu'on dit. Parfois, les neurologues sont plus cinglés que leurs patients. »
Elle s'interrompt encore, puis ajoute.
Je pourrais dire que j'en ai un peu marre de Hartsfield aussi. Mais ça serait pas tout à fait juste. La vérité, c'est qu'il me fout les jetons. Comme la maison hantée du quartier me foutait les jetons quand j'étais petite.
Ah ouais ?
Je savais qu'il y avait aucun fantôme dedans, mais en même temps, s'il y en avait eu...
Hodges arrive à l'hôpital peu après 14 heures. En cet après-midi de veille de grand week-end, la clinique des traumatisés du cerveau ne pourrait pas être plus déserte, du moins dans la journée. L'infirmière de service, Norma Wilmer, d'après son badge, lui remet son passe-visiteur. Tout en l'épinglant à sa chemise, Hodges remarque, juste pour passer le temps, « Il semblerait que vous ayez eu une tragédie dans le service hier. »«
Je ne peux pas en parler, »
répond l'infirmière Wilmer. « Vous étiez de garde ?»«
Non. »
Elle retourne à son travail de bureau et ses écrans de contrôle. C'est bon. Il en apprendra plus de la bouche de Becky à son retour, quand elle aura eu le temps de contacter ses sources. Si elle va jusqu'au bout de son projet de transfert, pour Hodges, c'est encore le meilleur signe que tout ça est peut-être bien réel, il trouvera quelqu'un d'autre pour le renseigner un peu. Certaines infirmières sont des fumeuses invétérées, en dépit de tout ce qu'elles savent de cette funeste habitude. Et celles-là sont toujours contentes d'empocher un peu d'argent pour les clopes. Hodges se dirige d'une démarche nonchalante vers la chambre 217, conscient que son cœur bat plus vite et plus fort que la normale. Encore un signe qu'il a commencé à prendre tout ça au sérieux. L'article dans le journal du matin l'a secoué, et pas qu'un peu. Il rencontre Biblial en chemin, qui pousse son petit chariot, et lui lance son salut habituel.
« Salut, Al. Comment ça va aujourd'hui ?»
Al ne répond pas tout de suite. Il a même pas l'air de le voir. Les cernes, style cocard qu'il a sous les yeux, sont plus marqués que jamais. Et ses cheveux, d'ordinaire soigneusement peignés, sont en bataille. Et aussi, son foutu badge est à l'envers. Hodges se demande une nouvelle fois si Al n'est pas en train de perdre le nord.
« Tout va bien, Al ?»«
Oui, oui, » répond Al d'un ton absent. Jamais aussi bien que ce qu'on voit pas, hein ?
Hodges ne voit absolument pas quoi répondre à pareille absurdité. Et avant que quelque chose ait pu lui venir à l'esprit, Al a déjà passé son chemin. Hodges, perplexe, le regarde s'éloigner avant d'en faire de même. Brady est assis à sa place habituelle près de la fenêtre, vêtu de sa tenue habituelle, jean et chemise à carreaux. On lui a coupé les cheveux. Mal. Quelqu'un a vraiment salopé le boulot. Hodges doute que son petit gars en ait quelque chose à faire. C'est pas comme s'il devait sortir ce soir pour aller danser.
« Salut, Brady. Ça fait une baille, comme disait l'aumônier de marine à la mer supérieure. »
Brady continue à regarder par la fenêtre, et les mêmes sempiternelles questions font la ronde dans la tête de Hodges. Brady voit-il quelque chose là-dehors? Sait-il qu'il a de la compagnie? Et dans ce cas, sait-il qu'il s'agit de Hodges? A-t-il seulement des pensées? Parfois, il pense. Suffisamment, en tout cas, pour prononcer quelques phrases simples. Et en salle de kiné, il est capable de traîner les pieds sur les 20 mètres environ de Torture Avenue, comme l'appellent les patients. Et après, ça veut dire quoi? Les poissons peuvent bien nager dans l'aquarium. Ça veut pas dire qu'ils pensent. Hodges se dit, jamais aussi bien que ce qu'on voit pas. Et ça aussi, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Il soulève la photo encadrée de Brady et sa mère enlacée, souriant à pleines dents. Si ce salopard a jamais aimé quelqu'un, c'était sa chère vieille maman. Hodges guette sa réaction au fait que son visiteur tripote la photo de Deborah Ann. Pas de réaction, apparemment.
Elle a l'air sexy, Brady. Elle était sexy? C'était la super chaudasse, dit. Pas de réponse. Je te demande ça juste parce que, quand on a craqué ton ordinateur, on a trouvé des photos d'elle plutôt olé-olé. Nuisette, banilon. Petite culotte et soutien-gorge, tu vois ce genre de truc? Elle m'a paru sexy en petite tenue. Aux autres flics aussi, quand ils l'ont matée.
Il a beau servir ce mensonge avec son panache habituel, il n'obtient toujours pas de réaction. Nada.
Tu te l'es tapé, Brady? Je parie que t'en crevais d'envie.
Il a rêvé, là, où il a vu l'infime frémissement d'un sourcil. Une imperceptible moue. Peut-être bien. Mais Hodges sait aussi que ça pourrait juste être son imagination. Parce qu'il veut que Brady l'entende. Personne en Amérique ne mérite plus que cet enfoiré d'assassin qu'on frictionne du sel sur ses plaies.
Peut-être que tu l'as tué et qu'ensuite tu te l'es tapé. Plus besoin de s'embarrasser de politesse, hein?
Rien. Hodges s'installe dans le fauteuil visiteur et repose la photo sur la table de nuit à côté du Zapit, l'un des livres électroniques que Hal remet au patient qui en demande. Il croise les mains et regarde Brady, qui aurait jamais dû sortir de son coma, mais qui en est sorti. Enfin.
Plus ou moins. Tu joues la comédie, Brady?
Il lui pose toujours cette question, et il a jamais obtenu de réponse. Il n'en obtient aucune aujourd'hui non plus.
Une infirmière s'est suicidée la nuit dernière dans le service. Dans les toilettes. Tu savais ça? Son nom n'a pas été révélé, mais ils disent dans le journal qu'elle est morte d'hémorragie massive. J'imagine que ça veut dire qu'elle s'est tailladée les veines, mais j'en suis pas sûr. Si tu l'as su, je suis sûr que ça t'a fait bicher. T'as toujours adoré les suicides, hein?
Il attend. Rien. Hodges se penche en avant, plonge son regard dans le visage inexpressif de Brady, et lui parle gravement.
Le truc, ce que je comprends pas, c'est comment elle a fait ça. Les miroirs sont pas en verre dans ses toilettes, mais en métal poli. J'imagine qu'elle a pu se servir du miroir de son poudrier ou autre, mais ces petits machins-là me semblent pas tellement de taille pour un boulot pareil, comme sortir son couteau dans une fusillade.
Il s'adosse au fauteuil.
Hé, peut-être qu'elle avait un couteau? Un de ces petits couteaux suisses, tu sais, dans son sac. T'en as déjà eu un, toi?
Rien. Ou si, il a l'impression, très forte, que derrière ce masque vide, Brady l'observe.
Brady, certaines infirmières pensent que t'es capable d'ouvrir et de fermer l'eau dans ta salle de bain depuis ta chambre. Elles pensent que tu le fais juste pour leur fiche la frousse. C'est vrai?
Rien. Mais cette impression d'être observé est toujours forte. Brady adorait les suicides. On pourrait même dire
que le suicide était sa signature. Avant que Holly ne le calme à coups de happy slapper, Brady a tenté de pousser Hodges lui-même au suicide. Il n'y est pas arrivé, mais il a réussi avec Olivia Trelawney, la propriétaire de la Mercedes que Holly Gibney possède aujourd'hui et s'apprête à conduire jusqu'à Cincinnati. « Si tu peux le faire, fais-le maintenant. Vas-y, épate-moi. Fais-moi ton numéro, tu veux ?»
Rien. Certaines infirmières ont la conviction que les coups répétés qu'il a reçus sur le crâne le soir où il a voulu faire sauter l'auditorium Mingo ont d'une façon ou d'une autre modifié les capacités cérébrales de Hartsfield, que les coups répétés sur le crâne lui ont donné des pouvoirs. Le docteur Babineau dit que c'est ridicule, l'équivalent hospitalier d'une légende urbaine. Hodges est persuadé qu'il a raison, mais cette impression d'être observé est indéniable. Tout comme le sentiment qu'en son fort intérieur, Brady se fout de sa gueule.
Hodges ramasse le livre électronique. Celui-ci est bleu. La dernière fois qu'il est venu à la clinique, Biblial lui a dit que Brady aimait bien les démos. « Il les regarde pendant des heures », a dit Hal.
« T'aimes ce machin, hein ?»«
Rien. »«
Quoique tu puisses pas faire grand-chose avec, hein ?»
Zéro, nib, que dalle.
Hodges repose le zapit à côté de la photo et se lève.
Je vais voir ce que je peux apprendre au sujet de cette infirmière, ok? Et ce que j'arriverai pas à faire remonter, mon assistante s'en chargera. On a nos sources. T'es content que cette infirmière soit morte? Qu'est-ce qu'elle t'avait fait? Pincé le nez? Tordu ton bout de quéquette inutile? Peut-être parce que t'avais écrasé un de ses parents ou ami au City Center?
Rien. Rien. Rien.
Les yeux de Brady roulent dans leurs orbites. Il regarde Hodges. Et Hodges éprouve une seconde de terreur brute, irraisonnée. Ses yeux-là sont morts en surface, mais ce qu'il entrevoit en dessous paraît à peine humain. Ça lui rappelle ce film sur la petite fille possédée par Pazuzu. Puis, les yeux retournent vers la fenêtre. Et Hodges s'intime de pas être stupide.
Babineau dit que Brady est revenu aussi loin qu'il reviendra jamais, c'est-à-dire pas bien loin. Il est l'ardoise vierge classique, sans rien d'écrit dessus, sauf les propres sentiments que Hodges nourrit envers ce type, l'être le plus méprisable qu'il ait jamais rencontré au cours de toutes ses années dans les forces de l'ordre.
Je veux qu'il soit conscient pour pouvoir lui faire mal, pense Hodges. C'est tout ce qui le motive. Il découvrira sans doute que le mari de l'infirmière l'avait laissé tomber, ou qu'elle se droguait et qu'elle allait se faire virer, ou les deux.
« Ok, Brady, » dit-il, « je change de crèmerie. Je file comme un spaghetti. Mais avant de partir, je me dois de te dire, en copain, entends-moi bien, que t'as une coupe de cheveux vraiment merdique. »
Aucune réponse.
À la revoyure, enflure. À la revoyance, sale engeance.
Il s'en va, refermant doucement la porte derrière lui. Si Brady est conscient, la claquer pourrait lui donner le plaisir de savoir qu'il a foutu Hodges hors de lui.
Oui, sacrément hors de lui.
Hodges parti, Brady lève la tête. À côté de la photo de sa mère, le zapit bleu revient soudain à la vie. Des poissons animés zigzaguent dans tous les sens sur l'écran. Une petite musique joyeuse, pétillante, se fait entendre. L'écran passe à la démo du jeu Angry Birds, puis à Barbie défilé de mode, puis à Galactic Warrior. Après quoi, l'écran redevient noir. Dans la salle de bain, l'eau jaillit dans le lavabo, puis s'arrête.
Brady regarde la photo de lui et sa mère souriant, joue contre joue. Il la fixe du regard. La fixe du regard. La photo bascule en avant. Clac !